Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir. L'effondrement du pont de Mirepoix sur Tarn. Emmanuel Macron face au maire de France sur fond de mécontentement social. Les manifs en question à Paris avec les casseurs. Le zéro alcool au volant. C'est dans les informés avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Avec Monder Abdennader, cofondateur des Napoléon, réseau social dédié aux acteurs de l'innovation, enseignant à Sciences Po, et avec Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique, également enseignant à Sciences Politiques. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Que s'est-il donc passé à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse? Pouvait-on éviter le drame? Une enquête est ouverte après l'effondrement du pont suspendu qui a fait deux victimes, désormais une adolescente de 15 ans, ainsi que le conducteur du poids lourd qui s'était engagé sur le pont et dont le corps devait être incarcéré ce soir. Écoutez tout d'abord ces témoignages de riverains.
Je me suis habillée, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que les câbles pendaient dans tous les sens. Je me suis dit que c'était pas bon, que c'était passé quelque chose de grave.
Je pensais que c'était un tremblement de terre. Et en fait, je suis sortie, j'ai vu plein de voitures et tout. Et en fait, c'était le pont qui s'était écroulé. Donc c'est très choquant.
Je ne prends plus ces ponts là maintenant. Hein. Je vais passer par la route. Et il y en a un autre là-bas à Villemur aussi, pareil, qui fait un peu peur. Hein. Si les camions ne passent pas, ça va très bien. Mais les camions ne respectent pas.
Voilà, le camion qui transportait un engin de chantier de 19 tonnes pour un poids total de 44 tonnes a révélé France Bleu Occitanie et Jeannick Halimi, tonnage bien au-delà des capacités du pont limité à 19 tonnes. Justement, je rappelle hein, que le corps du chauffeur est toujours incarcéré, il doit être désincarcéré ce soir.
Ah oui, d'accord, oui, c'est terrible, effectivement. Écoutez, à l'heure qu'il est, on se pose la question, est-ce que c'est une erreur de circulation, j'allais dire, oui. de responsabilité de...
Individuelle, finalement.
Individuelle, voilà, poussée peut-être par raccourcissement de trajet, d'économie de temps, je ne sais pas, bon, ça, on verra, l'enquête le tranchera. L'autre élément qui se pose de toute façon générale, même si, encore une fois, ce camion n'avait pas circulé sur ce pont et c'était clairement indiqué, c'est l'état de nos routes, l'état de nos ponts.
Oui.
On en parlait tout à l'heure, il y a un rapport du Sénat qui est sorti récemment qui coupe le souffle, pour un pays développé... Comme la France, qui peut se vanter d'avoir des corps d'ingénieurs, des ponts et chaussées qui sont considérés comme parmi les meilleurs au monde. Enfin, en tout cas, nous, on le pense en France. Et je soumets juste quelques chiffres comme ça et quelques règles. Il y a, alors, figurez-vous qu'on n'arrive même pas à compter le nombre de ponts en France. On l'estime à entre 250 000 et 300 000. Oui. Il n'y a pas de comptabilité précise. C'est fou.
Alors, le rapport dont vous faites allusion, c'est une mission d'information sénatoriale qui avait été sur la sécurité des ouvrages, au fond, de ce type, pas seulement des ponts, qui avait été menée à bien après l'accident survenu au viaduc de Gênes, en Italie. C'était le 14 août 2018, qui avait fait 43 morts, faut-il le rappeler. Gilles Bornstein, il y a un vrai questionnement ce soir sur la dangerosité de ce type d'ouvrage en France.
Oui, c'est compliqué pour nous de répondre parce que nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes des citoyens, donc on peut répondre en tant que citoyen.
Qui s'interroge.
Et absolument, donc le sénateur Hervé Maurey effectivement a rendu un rapport, et là il y a deux questions, parce que sur ces 250 000 ponts dont vous parliez, Jeannick, il a considéré que 25 000 présentaient des dangers. Alors s'ils présentent des dangers, pourquoi a-t-on le droit de rouler dessus? Parce que je l'ai entendu cet après-midi, confirmer que les ponts qui avaient été jugés dangereux, on pouvait quand même rouler dessus. Et pourquoi celui-ci qui s'est effondré alors qu'il n'était pas dans la liste était quand même dangereux. Voilà, tout cela est assez difficilement compréhensible parce que lui-même a redit que effectivement ce pont-là n'avait pas été considéré comme dangereux par par l'enquête qu'il a menée. Et puis deux autres choses, on entend que les impôts ça sert à rien. Alors là même si manifestement ils ont été mal utilisés, on a beaucoup entendu les impôts ça sert à rien. Bah les impôts ça peut aussi servir à réparer des ponts. Et aux États-Unis où il y a eu moins d'État pendant très longtemps, ils ont aussi ce genre d'équipement dans un état déplorable. L'État ça sert à quelque chose.
Mandir Abdelnader, d'accord avec ce que dit à l'instant Gilles Bornstein. Par delà le côté effroyable de cet accident, il y a ce questionnement sur, au fond, l'état de nos infrastructures.
C'est un terrible drame. Il aurait pu être évité, effectivement, avec ce que vient de dire Gilles. J'ai lu cette enquête sénatoriale. 20%, voire plus, de ces ponts appartiennent à des communes, les autres appartiennent à l'État ou au département. Et évidemment, ça pose la question des subsides, des budgets qu'on alloue à ces ponts-là. Ça veut dire qu'il n'y a personne. J'ai même appris dans cette étude qu'il y avait des ponts orphelins qui n'appartenaient à personne, donc dont personne n'a la charge. Et c'est quand même assez grave de pouvoir dire ça, de l'écrire dans une enquête qui date de juin 2019, je crois. Oui. Donc elle est très tardive, mais elle a le mérite d'exister. Que va-t-on faire? En tout cas, il faut plus laisser ce genre d'événement arriver et essayer de répertorier, comme le disait Yannick, ces ponts. C'est inimaginable d'avoir une marge de 50 000 ponts.
Pour un pays qui compte 35 000 communes.
Ouais. Enquête très récente, mais très documentée. On va entendre d'ailleurs un extrait de l'interview de Hervé Maurey dans un instant. Bruno Cotrès, est-ce qu'il faut être un brin alarmiste ce soir ou pas?
En tout cas, si on lit ce rapport, on ne peut être que effectivement alarmiste. Ce rapport indique même qu'il y aurait 2 800 ponts qui sont gérés par l'État, qui vont arriver en fin de vie. Donc ça pose non seulement la question de la sécurité sur nos infrastructures routières, mais évidemment, ça pose clairement le problème d'un nouveau souffle, d'une politique publique ambitieuse de transport, de sécurisation des routes, des ponts. C'est quand même pas rien, les ponts. Donc effectivement, je partage la sidération qu'on a quand on lit ce rapport sénatorial d'apprendre que dans notre grand pays, avec tous ces corps d'ingénieurs, de techniciens, on n'a pas su dénombrer le nombre de ponts. Et ça va évidemment jeter un pavé dans la mare, à la fois du débat politique, mais aussi de l'agenda du gouvernement. Est-ce qu'après les hôpitaux, il va falloir un nouveau plan d'urgence, d'extrême urgence même, sur la question des ponts, avec quelles conséquences budgétaires, quelles conséquences aussi sur le dialogue entre l'État et les collectivités locales aujourd'hui? Ça s'annonce très 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 compliqué dans les semaines qui arrivent sur ce dossier.
Allez, 20h10 sur France Info, nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, Soizic Bourg.
Le chauffeur du poids lourd, retrouvé après l'effondrement du pont de Mirepoix sur Tarn, ce qui porte le bilan de la catastrophe à 2 morts et 5 blessés, plusieurs personnes sont portées disparues. Le préfet de police saisit l'IGPN après une vidéo d'un manifestant blessé à l'œil pendant la manifestation anniversaire des Gilets jaunes à Paris. Il pourrait avoir été touché par une grenade lacrymogène. Les organisations syndicales donnent leur feu vert au projet de fusion entre Fiat Chrysler et PSA. La semaine prochaine, c'est le comité de groupe européen de PSA qui se réunit. Si le mariage a lieu, la nouvelle entité deviendrait le numéro 4 mondial du secteur automobile. La SNCF doit continuer à supprimer des emplois. C'est la Cour des comptes qui le dit dans un rapport publié aujourd'hui. Entre 2012 et 2017, le groupe s'est séparé de 6000 cheminots. Il faut continuer sur le même rythme, explique le texte. Chaque année, la masse salariale de la société ferroviaire augmente de 2%. Donald Trump, qui témoigne à la Chambre des représentants en pleine enquête pour destitution, c'est possible. Le président des États-Unis n'exclut pas de parler devant l'une des deux commissions à majorité démocrate. Et puis attention, si vous habitez dans les Landes, le département placé en vigilance orange, inondation et crue, la rivière de l'Adour devrait déborder demain dans la matinée. Une vingtaine de routes départementales sont déjà fermées.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous avons fait trop d'économies, c'est ce qu'a déclaré Hervé Maurey, nous l'évoquions à l'instant, sénateur UDI de l'Eure, président de cette mission d'information sur la sécurité des ponts en France.
La problématique, c'est que on a, au fil des ans, fait des économies d'entretien, et que l'on sait très bien que lorsqu'on ne met pas 1 euro aujourd'hui, on doit en mettre 10 ans plus tard. Et donc ce sont des économies faciles, les économies d'entretien.
Jeannick Halimi, difficile à entendre hein, tout de même. C'est un constat qui est accablant. Nous avons fait trop d'économies.
On a fait trop d'économies. On en parlera tout à l'heure avec les maires, mais effectivement.
On va en parler dans un instant.
Voilà, la baisse des dotations quand même explique de l'État aux communes, explique en grande partie les problèmes financiers que rencontrent les mairies, avec des hausses d'impôts, mais qui rend les communes impopulaires, mais qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les coûts d'entretien. Mais je voudrais quand même donner deux éléments. Un d'ordre juridique que j'ai appris. En lisant également ce rapport, les communes, en tout cas les collectivités locales compétentes, n'ont pas d'obligation légale de contrôler l'état de ces ouvrages, premièrement. Et deuxièmement, alors vous parlez, Bruno Cotrez, du plan Marshall, hein, puisque c'est le terme utilisé qu'il faudrait pour mettre à niveau, si je puis dire, en état de sécurité, tous ces ouvrages d'art. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Moi, je lisais les chiffres avancés dans ce rapport. Aujourd'hui, on dépense, on investit environ entre 60 et 60 millions par an. Et il faudrait le double, c'est-à-dire environ 130 millions d'euros par an sur 10 ans. Ce n'est pas non plus himalayen pour un pays comme la France. Ouais. Donc on se dit peut-être s'il y a véritablement...
Vous dites qu'il y aurait un effort à faire.
Bah, il y aurait un effort qui paraît tout de même tout à fait supportable et par l'État et par les collectivités locales. C'est quand même elles qui sont les principales maîtres d'ouvrage de ces ponts.
Je trouve que, enfin, l'actualité jour après jour nous prouve qu'il y a, j'ai l'impression, une frontière étanche entre cette actualité et les programmes politiques. Au présidentiel, c'était il n'y a pas si longtemps, François Fillon réclamait 300 milliards de baisse de dépenses publiques, c'est ça. Bruno Retailleau, qui l'a soutenu jusqu'au dernier moment, exigeait encore la semaine dernière plus d'un milliard d'euros pour l'hôpital. Là, on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est absolument impossible que ces ponts ne soient pas rénovés. Ça ne peut être que sur fonds publics. Et vous allez voir que demain, ça ne va pas empêcher la moitié de la classe politique, surtout à droite, de dire qu'il faut continuer à réduire les dépenses publiques. Alors peut-être, mais à un moment, la dépense publique, c'est pas un concept. La dépense publique, c'est des hôpitaux, des flics, des ponts. C'est des vrais, on fait des vraies choses avec cet argent.
Je vois qui c'est, Mandher Abdelnader. Le problème, c'est qu'il faut la répartir, la dépense publique.
Il faut évidemment la répartir. Alors, la difficulté, je pense, c'est la multitude d'injonctions qui est un peu disparate. Et je crois que la difficulté des gouvernants, c'est de pouvoir gérer les temps longs, les temps courts, et puis une forme de globalité. Et surtout une extrême proximité avec les communes, avec les d'où on va parler des maires tout à l'heure. Et je pense que ce tiraillement, alors je ne sais pas ce qu'il faut, on n'a plus de commissariat au plan ou de direction au plan, mais peut-être qu'à l'époque, ça servait à quelque chose. Alors, donc peut-être qu'il faut revenir...
Ça servait à quelque chose dans une économie moins mondialisée quand même qu'aujourd'hui.
Voilà. Et peut-être qu'il nous manque ça. Il nous manque effectivement une forme de structuration, de hiérarchisation qui puisse servir aux politiques pour prendre ses décisions et développer ses budgets.
Alors justement, c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a 4 mois, peut-être plus que ça, 4 mois des
mars.
Élections.
Hein.
Oui, mars, absolument. Des élections municipales s'adresse aux maires de France, j'allais dire pour les cajoler après les avoir rudoyés, notamment avec la suppression, on parle des finances publiques, de la taxe d'habitation. Pour Stéphane Le Foll, maire socialiste du Mans et ancien collègue ministre d'Emmanuel Macron sous François Hollande, le gouvernement met tout le monde dans l'incertitude. Stéphane Le Foll, qui était l'invité de Caroline Roux aux 4 vérités sur France 2 ce matin.
Ce gouvernement fait des choses qui met tous les acteurs et les territoires avec dans l'incertitude, les Français vis-à-vis de la retraite, dans l'incertitude, sur l'objectif, sur l'écologie, dans l'incertitude. Il y a donc un vrai sujet, et c'est pas le congrès des maires et la venue du président qu'il faut accepter et écouter qui va changer ces questions-là.
Est-ce que le ton a changé au moins ?
Le ton a changé, d'ailleurs c'est ce qui a été indiqué. Le ton a changé, mais le fond n'a pas changé.
Bruno Cotrez, cette incertitude que décrit Stéphane Le Foll, ça rejoint un petit peu ce qui est dit à l'instant.
Oui. Oui, ça rejoint même tout à fait. Je dirais que je pense que cette question de ces différentes temporalités de l'action publique, c'est la question centrale aujourd'hui dans toutes les grandes démocraties. il faut établir des priorités, bien sûr. Et effectivement, nos gouvernements n'arrivent pas très très bien à construire une histoire, à nous raconter, à nous les citoyens, sur le temps long en particulier.
Vous voulez dire qu'il manque toujours ce récit?
Il manque toujours ce récit qui est de dire on a des grands objectifs qui sont les objectifs de protection, de sécurité, de vivre en paix dans un pays qui tourne bien, qui fonctionne bien. Et ça, on a beaucoup de mal à construire.
Pourtant, il y a des réformes des narrations qui sont en cours quand même.
Mais bien sûr, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a énormément de continuité dans l'action publique. Il y a des lignes directrices, y compris si on prend la question des réductions des dépenses publiques, où est-ce qu'elles sont réduites. Il y a quand même aussi des lignes de direction. Mais nos hommes politiques n'arrivent pas à admettre qu'il faut qu'ils racontent aux Français ces grandes lignes, parce que ça revient à dire que ce qui a été fait avant et ce qui sera fait après, bah ça s'inscrit aussi dans un récit commun. Et comme le récit politique de base, c'est d'incarner la rupture, il y a beaucoup de mal à expliquer ça aux Français. Donc on a ces sautes régulièrement dans l'actualité. On a le sentiment qu'on découvre des problèmes, on découvre que l'hôpital va pas bien, on découvre que les ponts, on sait même pas combien il y en a. Et ça, c'est très 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 mauvais pour la confiance des Français dans l'action publique.
Jeannick Halimi.
Non, c'est juste pour rebondir quand même sur ce que vient de dire Bruno Cotrez et les injonctions contradictoires. Moi, je pense, mais il a raté. Hein, je pense qu'Emmanuel Macron avait quand même tenté cette narration d'un grand discours. Souvenez-vous, c'était le premier. Après, on y adhère, on n'adhère pas. Hein, c'est oui, pas le sujet. C'était le premier de cordée. C'était on sort la France des inégalités. Comment? Non pas en nationalisant ou en refaisant de la redistribution, mais en misant sur l'école primaire et en permettant au marché de l'emploi de se débloquer. Voilà. Et il est estimé que le récit de la France passait par ça et l'ascenseur social pouvait se déclencher, se remettre en marche. Mais effectivement, il y a eu les gilets jaunes, pour faire court. Il y a eu les gilets jaunes avec les injonctions contradictoires dont vous parliez, c'est-à-dire, pour faire très court, hein, moins d'impôts, mais plus de services publics. Comment faire avec ce casse-tête? Certains, comme la France insoumise, estiment que c'est le régime et le système économique, financier, européen et le régime politique de la démocratie représentative qu'il faut changer totalement, notamment en nationalisant, en sortant des 3%. Et les autres, même Marine Le Pen ne prône plus la sortie de l'Union européenne, les autres tentent encore des replâtrages ou en tout cas des reconstructions par la réforme, et là, c'est extrêmement compliqué.
Vous trouvez que le ton a changé, Gilles Bornstein?
Bah, les maires le disent, même André Laignel que j'ai reçu ce matin, qui est très très...
Même François Baroin le dit.
Alors François Baroin dit que ça a vraiment changé, on sent qu'il y a un partage des rôles, que François Baroin fait plutôt le good cop quand André Laignel fait le flic méchant. Lui dit, André Laignel dit que sur le fond rien n'a changé, mais que au moins ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Voilà, donc manifestement le ton a changé. Sur la réalité, je ne suis pas maire, donc je ne sais pas, mais André Laignel dit que pour ce qui concerne la péréquation de la taxe d'habitation, pour ce qui concerne tous les dossiers en cours, que finalement, c'est plus un changement de façade qu'un changement réel. Un mot sur ce qu'a dit Yannick, vous avez tout à fait raison sur votre analyse de ceux qui veulent s'en sortir et la France insoumise, c'est en sortant des 3% et en changeant de régime. Ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même a visiblement décidé de s'en sortir en sortant des 3%.
Oui, parce que, sans, aux 3%.
Je ne sais pas ce que le Premier ministre annoncera après-demain sur l'hôpital, mais alors manifestement, les 3%, c'est plus du tout son sujet parce qu'il a compris.
Déjà dans le rétroviseur.
Il a compris qu'avec Bruxelles, on s'arrange toujours, alors qu'avec les gilets jaunes, c'est plus compliqué.
Allez, peut-être. On marque une pause, une nouvelle. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Soizic Bourg.
Un deuxième corps retrouvé en Haute-Garonne après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, celui du chauffeur du poids lourd. Une adolescente a également perdu la vie ce matin. 5 personnes sont blessées. L'ouvrage régulièrement examiné ne présentait pas de faille de sécurité selon le Premier ministre. Lubrizol assure avoir tiré les leçons de l'incendie de son usine et annonce vouloir reprendre partiellement ses activités. Activités qui n'ont pas de réaction chimique. Le préfet de Normandie assure prendre acte de la déclaration sans prendre de décision. Le déficit du système des retraites devrait atteindre entre 7,9 et 17,2 milliards d'euros en 2025, selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites. Pour le remettre à l'équilibre, il fait 3 propositions. Baisser les pensions, augmenter les cotisations ou relever l'âge de départ. Un référendum pour définir les bonnes conditions d'usage d'Airbnb. Promesse d'Anne Hidalgo, après l'annonce du partenariat entre le CIO et la plateforme de location, la maire de Paris réservée sur cette alliance. Elle alerte sur les risques et les conséquences d'un tel sponsoring. footing pour les JO 2024. Et puis une fusillade dans le centre des États-Unis, en Oklahoma, près d'un supermarché Walmart. Trois personnes tuées, dont le tireur. Début septembre, l'enseigne avait arrêté de vendre des munitions pour certains fusils semi-automatiques.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Emmanuel Macron va donc parler au maire de France, mais pour quel récit, pour reprendre l'expression de Bruno Cotterêts, sur le climat social, sur les réformes en cours, notamment sur celle de l'assurance chômage? C'est la trique, a estimé Louis Gallois, ce n'est pas rien, l'ancien grand patron français qui aujourd'hui préside la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est la trique, a-t-il dit tout à l'heure à Jean Lemarie dans l'interview Écho sur France Info.
C'est une réforme extrêmement raide et dure. C'est une réforme qui est dure pour les précaires, c'est-à-dire ceux qui alternent les petits boulots et les périodes de chômage. Ça baisse beaucoup la prestation. Ça rapporte également 1 milliard d'euros à l'État. Je vois surtout qu'on fait payer la précarité aux précaires. Je pense que pour lutter contre la précarité, il y a d'autres moyens que la trique. Parce que ça, c'est la trique.
Bruno Cotterêts, la trique, ce n'est pas un insoumis qui dit ça, c'est un ancien grand patron français.
Non, c'est un ancien grand patron, c'est une grande voix du service de l'État et du service public, Louis Gallois, quelqu'un qui a été l'auteur de très nombreux rapports par le passé, quelqu'un qu'on va régulièrement solliciter pour à la fois son point de vue un peu en hauteur, sa sagesse dans
socialiste
ses diagnostics.
Aussi, hein.
Voilà,
dans
il est aussi.
Cabinet socialiste
voilà,
également.
Donc là, il utilise un répertoire qui est effectivement un répertoire qui est tout sauf anodin. La trique, c'est fait pour faire mal, en principe. Et donc, le vocabulaire qu'utilise Louis Gallois montre une condamnation extrêmement forte de la réforme de l'indemnisation du chômage en France. Et c'est vrai que cette réforme a des effets extrêmement importants sur, en particulier, tous ceux qui alternaient des périodes courtes d'emplois précaires, d'emplois intérimaires, de repassage par le chômage. Alors, il y a beaucoup d'interactions entre tout ceci aujourd'hui. On peut vraiment... Ce sont des dispositifs qui ont beaucoup évolué depuis quelques années. Mais c'est vrai que là, il nous jette un pavé dans la mare et je ne serais pas étonné que cette expression de Louis Gallois soit amenée à se retrouver pas mal sur les réseaux sociaux, dans les débats.
Gilles Bornstein, difficile d'expliquer la réforme ou les bienfaits de la réforme aujourd'hui?
Je trouve que cette réforme et ce qu'en dit Louis Gallois vient vraiment percuter un angle mort du macronisme. Parce que Yannick l'a très justement dit tout à l'heure, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'était celle de l'émancipation, de donner à tout le monde l'égalité à la base, de donner à tout le monde les moyens de travailler et de monter dans le train.
C'est ce qui inspire aussi, sur le papier, la réforme des retraites.
Hein. Absolument. Mais on sait que dans une société de 66 millions d'habitants, tout le monde n'a pas les moyens de monter dans le train. Il y a toujours des laissés pour compte. Et c'est une grande voix, vous l'avez dit, c'est une grande voix socialiste, mais c'est une grande voix du monde associatif raisonnable. Il est très proche de Véronique Fayette, la patronne du Secours catholique, qui disait que depuis le début du quinquennat, les seuls à ne pas avoir vu leur pouvoir d'achat augmenter étaient les 10% les plus pauvres. Parce que effectivement, l'émancipation, ça fonctionne un petit peu, mais les très pauvres sont l'angle mort du macronisme. Et cette réforme de l'assurance chômage vient les percuter. Laurent Berger disait qu'elle ferait 1 400 000 personnes qui perdraient des prestations. Alors le gouvernement conteste ce chiffre d'1 400 000 qui est énorme, mais c'est vrai qu'avec Macron, il y a un problème avec les plus pauvres.
Mander Abdennader, parler au maire de France, est-ce qu'au fond c'est parler aux Français? Non, pas forcément. C'est parler à des élus d'abord.
Alors parler à des élus, mais c'est le seul moyen d'atteindre un niveau de granularité intéressant. C'est le dernier maître de la démocratie et de la République. Aujourd'hui, on parlait de temps long et de temps court, mais c'est déterminant d'avoir un ancrage territorial très fort pour un politique. Et je trouve que les maires sont vraiment déterminants dans ce lien-là. Recréer du lien social, être au plus près des citoyens, c'est l'apanage des maires aujourd'hui. Donc si on coupe le lien avec les maires, on coupe le lien avec ceux qui ont le lien avec les citoyens au plus près.
Je rappelle que dans l'enquête que nous réalisons toutes les années au CEVIPOF sur la confiance des Français dans les élus, il n'y a que les élus locaux qui arrivent à avoir un pourcentage de confiance. Il était l'an passé d'un peu plus de 50%. Mais comparé aux autres, aux élus nationaux, qui eux sont à moins 20, moins 30% de confiance. Donc effectivement, les Français perçoivent bien leurs élus locaux comme les seuls qu'ils investissent du minimum de confiance.
Mais des élus locaux qui souffrent, hein, Jeannick Alimi.
Des élus locaux qui souffrent parce que eux-mêmes sont sujets à des injonctions contradictoires dont on parlait tout à l'heure et qui ont vu leurs moyens, pour la plupart d'entre eux, pas tous, hein, notamment pas les métropoles, mais en tout cas les petites ou les moyennes mairies, communes, baisser considérablement. Et là, je trouve quand même que Stéphane Le Foll, avec tout le respect qu'on doit à un ancien ministre, exagère un petit peu. Il a tout à fait le droit, il est légitime et c'est justifié à stigmatiser, l'imprécision et l'imprévisibilité dans lequel peut-être nous met la politique de Macron, d'Emmanuel Macron, mais tout de même, le premier coup de canif, mais c'est pas un coup de canif, c'est un coup de ciseau, véritablement donné aux finances des mairies en baissant les dotations globales, vous savez, que l'État accorde aux mairies, c'est quand même François Hollande qui l'a donné, et de façon extrêmement forte. Emmanuel Macron, on va pas revenir sur la suppression de la taxe d'habitation, les contrats aidés, etc., a fait en sorte d'arrêter
et
cette baisse-là.
Nous sommes dans cette dynamique-là. Allez, on va marquer une pause pour la météo, le rappel de l'info. On reviendra dans la deuxième partie des informés sur les gilets jaunes, mais à travers le prisme de la violence publique et de la contestation sociale. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite des informés de France Info.
Vous êtes salarié, chercheur d'emploi, en reconversion ? France Info vous embarque dans le train de la révolution numérique. Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle à H7, quartier de la Confluence à Lyon, le 19 novembre. Témoignages de salariés, conseils d'entreprise engagés, idées de formation ? Venez écouter et échanger directement avec les intervenants. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir, mardi 19 novembre à 19h à H7 à Lyon. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Denso Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. Avec Région Job, trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi. Plus de 80 000 offres d'emploi partout en France, sur les sites et l'appli mobile Région Job. France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions, avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps calme demain, souvent encombré sur la Corse, la Côte d'Azur et les Alpes frontalières. Ça restera agité avec des averses, de l'orage, de la neige vers 800 mètres sur les Alpes-Maritimes. Le réveil sera gris entre le Massif central, Rhône-Alpes et le Nord-Est. On ne sera pas à l'abri de quelques gouttes ou quelques flocons au-dessus de 700-800 mètres. On retrouvera difficilement quelques rayons de soleil l'après-midi. Du nord de la Seine vers la région parisienne, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et la Basse-Vallée du Rhône. Pas mal de nuages le matin, plus d'éclaircies tout de même de la Normandie au Hauts-de-France et des Pyrénées jusqu'au Roussillon. L'après-midi, ça s'arrangera doucement. Des éclaircies assez belles se développeront. Attention, dans les Landes, l'Adour est en vigilance orange pour une crue importante. Il fera toujours bien frais demain, souvent moins 1 à 4 degrés le matin. L'après-midi, 4 degrés à Metz, 7 à Lille, Strasbourg, Paris, 7 aussi à Châteauroux, Clermont-Ferrand, Grenoble, 9 à Cherbourg et La Rochelle, 11 degrés à Brest, Biarritz, Marseille et 16 degrés en Corse.
h 30 sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. 2 morts et 5 blessés, c'est donc le bilan ce soir après l'effondrement d'un pont qui enjambait le Tarn à Mirepoix, à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Le pont métallique s'est affaissé dans la rivière, emportant avec lui une voiture et un camion. Le corps du chauffeur du camion a été localisé ce soir. Il est toujours dans le véhicule par 20 mètres de fond. Une adolescente de 15 ans qui se trouvait dans la voiture est décédée. 2 enquêtes, une judiciaire et une administrative, sont en cours ce soir pour déterminer les causes de l'accident. Le poids du camion pose question sur un pont interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Les 150 000 cheminots français sont trop nombreux, ils ne travaillent pas assez et coûtent trop cher à l'entreprise. Voilà la conclusion de la Cour des comptes ce soir dans un rapport cinglant sur la SNCF, à 3 semaines d'une grande mobilisation contre la réforme des retraites. Guillaume Gaven.
Le groupe a beau s'être défait de 6 000 salariés sur la période étudiée par le rapport 2012-2017. C'est encore trop peu, juge la Cour des comptes. Ils sont aujourd'hui 150 000 cheminots. Il faut continuer à réduire les effectifs sur le même rythme, estime la Cour, car selon elle, dans les 3 années à venir, il y aura encore des excédents importants dans certains métiers et dans certaines régions. Réduire les effectifs pour faire des économies sur la masse salariale, elle croît de 2% chaque année, des augmentations trop liées à l'ancienneté, pas assez au mérite, juge la Cour. Sans parler du travail en lui-même, la Cour des comptes pointe une organisation rigide, des règles inadaptées et des accords sociaux coûteux, comme les facilités de circulation. La gratuité du train coûte 220 millions d'euros chaque année et elle a un effet pervers, des clients payants qui ne peuvent pas accéder à des trains complets.
Les cheminots seront dans la rue le 5 décembre prochain pour défendre leur régime spécifique de retraite, mobilisation que rejoindront les avocats, ils l'ont annoncé aujourd'hui. Quant aux internes des hôpitaux, ils prévoient une grève illimitée à partir du 10 décembre pour dénoncer la dégradation des soins et obtenir une amélioration de leur statut. Ils travaillent 55 heures par semaine. La faculté ne rouvrira pas ses portes demain à Bordeaux. Le site principal de l'université Montaigne reste bloqué par les étudiants qui expriment ainsi leur colère et leur tristesse face à la précarité qui touche 20% des étudiants en France. Une action décidée après la tentative de suicide d'un jeune de 22 ans à Lyon il y a 10 jours. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur a reçu les responsables de l'UNEF et de la FAGE sans parvenir à rassurer les principaux syndicats étudiants sur la revalorisation des bourses étudiantes. Le préfet de police de Paris va saisir l'inspection générale après la diffusion d'une vidéo montrant un manifestant blessé à l'œil samedi, lors du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. L'homme pourrait avoir été blessé par une grenade lacrymogène. À l'international, une nouvelle fusillade aux États-Unis près d'un supermarché Walmart de l'Oklahoma, au centre du pays. 3 personnes ont été tuées. Le PDG de la chaîne de supermarchés Walmart s'était prononcé il y a quelques mois pour un contrôle renforcé des ventes d'armes à feu. Un sujet extrêmement sensible aux États-Unis puisque le port d'armes est autorisé par la Constitution. France Info, 20h33. Vous retrouvez Jean-François Aquili pour la suite des Informés tout de suite.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info, Monder Abdenader, cofondateur des Napoléons, réseau social dédié aux acteurs de l'innovation, enseignant à Sciences Po, Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche de la vie politique. Vous enseignez vous également à Sciences Po. Que disent du climat social ces manifestations de gilets jaunes systématiquement débordées par les casseurs? Anne Hidalgo est allée rendre un hommage républicain aujourd'hui, ce matin, après les dégradations place d'Italie de la statue du maréchal Juin qui rappelait un an plus tard les saccages de l'Arc de Triomphe. On écoute la maire de Paris.
Ça fait un an que ça dure, ça fait un an que les Parisiens sont inquiets, que l'économie de la ville est chaque week-end, finalement, dans certains quartiers, pas tous les quartiers, mais dans certains quartiers, au ralenti. Et en gros, ça suffit. Ces manifestations qui débouchent sur la violence, ça suffit.
Ça suffit, Yannick Halimi, mais pourtant ça se poursuit, ça continue.
Ça se poursuit avec tout de même des manifestants extrêmement caractérisé. Il n'y a même plus les ultra jaunes dont parlait Christophe Castaner à un moment.
Tout ça a
disparu.
C'est-à-dire
ces gilets jaunes qui s'étaient eux-mêmes radicalisés. Là, déjà, le nombre de manifestants s'est considérablement réduit, de 10 par rapport au summum de l'année dernière. Et puis là, c'est quand même véritablement des black blocs qui sont venus pour casser et pour semer la chienlit. Donc, mais cela dit, un, il reste toujours des vrais gilets jaunes et de toute façon des raisons de mécontentement qui ne justifient en rien la violence, bien évidemment. Et deux, il reste cette violence avec laquelle les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, nationaux, municipaux et la préfecture de police, ont bien du mal à gérer, malgré un changement de doctrine dans la façon d'opérer de la police sur le terrain. Vous savez, on, avec le changement de préfet, on n'hésite plus maintenant et on prône même le passage physique,
oui, enfin,
le compact. Et deuxièmement, la loi dont on va parler, une loi qui a été prise dite anti-casseurs, et malgré tout, on n'arrive pas tout de même à éviter les scènes de vandalisme auxquelles on a assisté.
Monder Abdenader, c'est le député Jean-Michel Fauvergue de La République En Marche, ancien patron du RAID, qui disait sur ce plateau l'autre jour qu'il y a de la violence aujourd'hui dans ce pays, un climat de violence.
Il y a une radicalité qu'on peut constater tous les jours, qui c'est vrai, est préoccupante. Nous on le sent dans toutes les dimensions de notre société aujourd'hui, et cette radicalité, elle est préoccupante. Et quand on se réfléchit un peu, on se dit que il faut faire une distinction. Les gilets jaunes, c'est des citoyens qui sont déclassés, qui sont au chômage, qui ont des revendications justes sans doute, et leur Et de l'autre côté, il y a des casseurs. Bon. Et ces casseurs-là, ils ne sont pas à confondre. La difficulté de l'État ou des gouvernants, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où ces radicalités nécessitent plus qu'une loi anti-casseurs, oui. de l'information, du renseignement, pour pouvoir filtrer et connaître le bon grain de livret. En tout cas, c'est très important aujourd'hui d'avoir ce discernement. Et les moyens ne sont pas uniquement physiques et en hommes, ils sont aussi en intelligence.
Et sur ce distinguo que vous faites, hein, Monder Abdennader, je vous fais écouter ce qu'en a dit ce Thierry-Paul Valette, qui est un gilet jaune parisien, figure des gilets jaunes, qui a interpellé la maire de Paris ce matin sur le terrain après l'hommage rendu devant la statue du maréchal Juin. Écoutez.
Il y a le 5 décembre qui va arriver, on ne peut pas se permettre que ça termine en guérilla urbaine. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut être entendus, on veut qu'on avance, on veut qu'il y ait des avancées majeures pour les Français qui souffrent, on ne veut pas qu'il y ait une guerre civile. Ça, non, ça, c'est des gens obscurs qui sont porteurs de haine, très extrémisés, c'est pas nous.
Gilles Bornstein, c'est pas nous, c'est eux. On n'en sort pas, non plus. Hein.
Non, on n'en sort pas. C'est pas totalement faux. On sent qu'au début, tout le monde était mélangé. Et puis, samedi après samedi, on sentait qu'il y avait une séparation entre les gilets jaunes dits sincères et les casseurs. Là, samedi, on a bien senti que la séparation, elle était à peu près absolue. Parce que sur la place d'Italie, il y avait peu de gilets jaunes sincères, peu même d'ultra jaunes, comme vous l'avez dit. Même s'il y avait 4000 gilets jaunes disséminés parce qu'ils étaient là pour la manif. Qui a été interdite. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on sent quand même une séparation. Ce qui est terrible, c'est que ça nous questionne chacun dans nos conceptions de la démocratie, parce qu'une manif interdite, en France, c'est quand même quelque chose d'important. Ça arrive rarement. Mmh. On n'interdit pas des manifs pour n'importe quoi. Mais en même temps, c'est vrai que les laisser sortir, quand on voit les images de violence, quand on voit les policiers pris à partie dans le pressing, les laisser autoriser la manif, c'était les laisser sortir de la place d'Italie, et c'était les laisser augmenter le nombre de vitrines qu'ils auraient pu casser, et c'était pas possible.
Bruno Cotteret, je vous fais réagir à ce qu'a dit ce matin le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, invité de Marc Fauvel et Renaud Dely sur France Info, qui a critiqué la gestion du préfet de police de Paris, Didier Lallement.
Le préfet Lallement, il était à Bordeaux. À Bordeaux, a été réprimé de manière la plus dure le mouvement des Gilets jaunes. Il vient maintenant à Paris sur décision de M. Castaner. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec une manifestation de pompiers devant l'Assemblée nationale. Les policiers m'ont braqué avec un canon à eau, j'avais mon écharpe tricolore, et nous avons été aspergés de lacrymogène alors qu'il n'y avait pas de violence. Là, rebelote ce week-end sur une manière de gérer les choses, y compris vis-à-vis des
vous
députés.
Vous demandez la démission du préfet ?
Voilà, c'est une manière de réprimer le mouvement.
Éric Coquerel, vous le mettez en accusation, vous demandez la démission du préfet allemand ?
Je trouve qu'après ce week-end, oui.
Bruno Cotteret, c'est un problème de maintien de l'ordre ou cela va au-delà, au fond ?
Ça va bien au-delà, je reprendrai moi le... L'analyse qui a été présentée, effectivement, moi, je suis frappé du très haut niveau de violence auquel nous avons assisté depuis un an, et d'une violence un peu distribuée dans tous les camps, dans tous les secteurs. On n'a jamais vu à la fois autant de forces de l'ordre qui ont été touchées, blessées. On n'a jamais vu aussi des dommages humains et physiques sur des manifestants comme ceux que nous avons vus, avec des gens qui ont eu des blessures absolument irrémédiables à l'œil, à la main, etc. Tout ceci est absolument sidérant pour une grande démocratie, un pays riche, un pays qui est puissant et un pays qui aboutit à ce genre de situation. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Et quand on fait la liste des éléments de l'actualité qui nous envoient des signes sur une forme de violence de la société française, il y a de grandes questions à se poser. Si on fait les violences contre les forces de l'ordre, les casseurs que nous avons vus samedi, les violences contre les manifestants, le nombre d'actes à caractère raciste, antisémite, les féminicides, il y a quand même quelque chose d'un dérèglement dans cette société française. Et c'est surtout à partir de là, je pense qu'il faudrait réfléchir, et je conclurai en disant, pour les Gilets jaunes, il y a un double enjeu. On voit bien les conséquences de ne pas être arrivé à se structurer politiquement. Le débouché d'un mouvement politique et de l'expression publique, c'est se compter le jour des élections, fondamentalement, d'accepter ce qu'on pèse le jour des élections, et de s'organiser pour ce débouché politique. Et ça les empêche de se positionner fortement contre les casseurs et d'avoir une parole qui soit clairement séparée aux yeux de l'opinion publique des actes que nous avons vus samedi. Et tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème, dans les commentaires, continuera la confusion entre gilets jaunes sincères et casseurs.
Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Soizic Bourg.
Je suis intimement persuadée que ce n'est pas un problème de structure du pont. La réaction du maire de Mirepoix-sur-Tarn après la catastrophe de ce matin, de morts dont le chauffeur du poids lourd qui a été retrouvé en début de soirée. Le pont avait été révisé l'année dernière et en 2017. L'enquête s'oriente sur le tonnage du camion trop lourd pour l'ouvrage. Un homme soupçonné d'avoir piégé des policiers dans une laverie, jugé en comparution immédiate aujourd'hui, arrêté en marge de la manifestation anniversaire des Gilets jaunes à Paris samedi. 27 autres personnes seront-elles jugées lundi. Le mariage PSA Fiat Chrysler en bonne voie. Les organisations syndicales donnent leur feu vert à l'alliance. La fusion ferait du groupe le quatrième mondial du secteur. Le chaos à Hong Kong. Des dizaines de manifestants encerclés par la police dans un campus. Ils se sont enfuis en descendant en rappel d'une passerelle. Pour calmer la contestation, la police menace d'utiliser des balles réelles face aux armes létales des opposants radicaux. Et puis la bonne opération d'Airbus. L'avionneur français vend pour 30 milliards de dollars d'appareils 330 et 350 à Emirates et Air Arabia. Boeing, de son côté, réussit lui à vendre 10 de ses 737 MAX cloués au sol depuis mars.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Par-delà ces violences survenues lors des manifestations de ce week-end et dans le climat général du moment, faut-il organiser un Grenelle social avant le 5 décembre, comme l'ont réclamé hier des élus centristes à leur tête, Patrick Mignola, le chef de file des députés Modem. C'était dans une tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France. On n'a pas le temps, leur répond le député de La République En Marche de l'Isère, Olivier Véran.
Alors, à titre personnel, plutôt non, parce que ce n'est pas le choix de la méthode que je ferai. Pourquoi ? Parce que lorsque vous dites faire une conférence sociale, ça veut dire tout stopper pour prendre le temps de réfléchir. Or, je pense que nous n'avons pas le temps de réfléchir. D'abord, parce que la conférence sociale, cette grande conférence sociale, nous l'avons menée et la menons toujours. C'est le grand débat national.
Yannick Halimi, ça a été publié dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, oui. En France. On n'a pas le temps ou on n'a plus le temps ?
On a toujours le temps de réfléchir. C'est une petite maladresse. Je connais un peu Olivier Véran. Bref, je pense que c'est une petite maladresse. Il est allé trop rapidement, lui. Bref, dans son expression. Non, le problème, c'est que personne n'est contre une conférence sociale, surtout après les Gilets jaunes, où il y a des conventions pour les retraites, pour l'écologie. Le problème, tout de même, et c'est à mon avis ce que voulait dire Olivier Véran, c'est que de donner cette date, avant le 5 décembre, on ne peut pas organiser une sorte de Grenelle comme ça, sociale, si on veut pour le coup parler. On peut pas faire ça, et formellement et sur le fond, ce serait une sorte d'alibi. Alors comme vous disiez, ce serait du toc, quoi. Oui. Donc revenons à des éléments rationnels et qui peuvent s'inscrire dans le temps d'ici le 5 décembre et après le 5 décembre.
Mondaire Abdennader, est-ce à dire que nous allons droit vers ce 5 décembre qui semble être une sorte de cercle rouge, de journée où vont s'agglomérer tous les mécontentements?
J'espère qu'il n'y aura pas d'agglomération de tous les mécontentements, même si c'est probable, mais bon, j'essaie d'être optimiste. Oui, on y va, mais en même temps, c'est pas du fait d'eau, parce que c'est quand même sérieux et terrible, mais il faut une purge. Il faut peut-être mettre les choses bien à plat. Quand je dis purge, je m'entends, hein, c'est juste qu'un dialogue s'instaure, que ce soit peut-être un acte fondateur, j'espère, pour amorcer ce dialogue qui nous a manqué en amont et que réclament certains élus. Donc j'espère que le 5 décembre servira au moins à ça, comme un point marquant, un point de départ pour mettre toutes les choses sur la table.
Oui, Gilles Bornstein, Emmanuel Macron qui va parler au maire de France redoute ce 5 décembre.
Ah, je crois que tout le monde dans la majorité, oui, le redoute. Ce Patrick Mignola qui est chef des députés Modem, s'il lance cette tribune, c'est aussi parce qu'il a peur. Je crois que dans la majorité, absolument tout le monde est tétanisé par ce 5 décembre. Parce que tout le monde a compris que le 5 décembre, le métro, fallait plutôt essayer de faire autre chose que le métro ou le bus, ça marcherait pas. Mais personne ne sait si ça va prendre à côté. L'autre jour, Philippe Martinez disait, j'appelle tous les salariés français à s'arrêter. On ne sait pas si ça va prendre dans le privé. Et puis surtout, on ne sait pas si ça va durer longtemps ou pas et si on va revivre 95. Donc oui, je pense que absolument tout le monde a peur. Et puis il y a un nouvel élément depuis hier, c'est la violence. Pour se relier au débat précédent, oui. C'est que de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, maintenant, tout le monde a peur que ça dégénère, en plus de la France bloquée, que ça dégénère le 5 décembre. C'est pour ça que les policiers sont très contents d'avoir arrêté 200 et quelques Black Blocs. Et eux, je peux vous pronostiquer que le 6 y sortiront peut-être, mais en aucun cas ils ne sortiront avant le 5. Ce que j'ai compris de chez les policiers, c'est que oui. De toute façon, ils allaient les garder parce que ça fait 250 casseurs en plus qui casseront en moins, si je puis dire, le 5 décembre.
Bruno Cotrez, vous qui évoquiez tout à l'heure le récit, la réforme, les réformes du gouvernement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, le 5 décembre, c'est un moment d'affrontement qui est inévitable.
Est-ce que ça va être un moment d'affrontement inévitable?
Quand en tout cas, je trouve que c'est la réforme contre ceux qui s'y opposent.
Oui, voilà. je trouve qu'effectivement, on touche à cette question du récit. C'est exactement ça. C'est-à-dire, quel est le récit de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron? Quelle est la grande question à laquelle il veut répondre? Et comment se présente-t-il, lui, aux yeux des Français, comme étant celui qui peut le mieux incarner et délivrer cette réponse? Pour le moment, je trouve que c'est pas évident. Emmanuel Macron n'arrive pas, pour le moment, à bien nous expliquer quelle est la ligne de mire de cet acte 2. S'agit-il de, pour employer le vocabulaire d'Édouard Philippe, s'agit-il de réparer la France? S'agit-il d'aller plus dans une direction sociale? Mais à ce moment-là se pose une question. Quelle est la différence entre Emmanuel Macron et ceux qui l'ont précédé, qui ont affronté les mêmes problèmes? Et donc je trouve qu'on voit qu'il y a une question effectivement très forte qui est en train de se poser. Où est le centre de gravité de l'acte 2 et comment Emmanuel Macron nous explique qu'il en est l'animateur?
Jeannick Halimi.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bruno Cotrez, ce qui vient d'être dit. Oui, et comme disait Gilles Bronstein, oui, bien sûr, dans l'exécutif, au sein de la majorité, tout le monde craint cette journée du 5 décembre. Mais tout le monde craint encore plus la journée du 6, la journée du 7, la journée du 8, voilà. La journée du 9, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, si cette grève se poursuit. Pour le moment, rien n'est joué. Pour le moment, la CGT, par exemple, qui est la principale centrale, n'a pas donné d'ordre, de mot d'ordre pour une nouvelle journée de manifestation. Mais, au-delà du fait que, par rapport notamment... je parle de la CGT Confédération.
Moi, j'ai reçu Philippe Martinez qui a dit oui. Hein, qui a dit ça prendra le temps qu'il faut et on donnera. Alors, il n'a pas déposé, mais il a dit le temps qu'il faudra.
Bon, on verra. Je ne suis pas sûre qu'il en ait envie. Pourquoi ? Parce que il va, pardonnez-moi, l'ouverture à la concurrence va véritablement avoir lieu à la fin de l'année prochaine et il n'a pas envie de griller de cartouches. Mais bon, oui. nous verrons. Non, l'autre élément, pardon, je termine. Allez-y. Par rapport à ce qui a été dit, c'est que par exemple, juste pour comparer par exemple à 1995 ou même à ce qui s'est passé sur la réforme de la SNCF ou les ordonnances travail au début, tout au début du quinquennat, justement, il s'est passé les gilets jaunes. Et que les gilets jaunes, à travers ce que nous disions, violence ou pas, l'opinion publique a compris et les colères, si vous voulez, se sont imprimées du fait qu'il y a un rapport de force maintenant qui s'est établi et qui peut être gagnant pour ceux qui sont face au gouvernement ou face à la majorité. Et là, c'est la porte ouverte à tout, à la poursuite du mouvement, à son enquistement au sens de coagulation des luttes, et puis peut-être, mais oui. Même si les syndicats ne le souhaitent pas, lors des manifestations, à des dérapages de violence. Donc là, c'est effectivement une période qui s'ouvre, qui est lourde de nuages noirs, très, très noirs.
Encore un mot, oui. C'est là où la violence est terrible, parce que les gilets jaunes ne cassent pas, mais on l'a beaucoup entendu. Beaucoup de gilets jaunes qui ne cassent pas considèrent que la violence finalement est légitime parce que c'est le seul moyen de se faire entendre.
Mais c'est un discours qu'on entend régulièrement.
Mais oui, parce que c'est le seul moyen de faire le 20h. C'est pas très bon pour ma confrérie et pour ma chaîne, mais c'est pas totalement faux de dire que s'il y a plus de violence, il y a plus de sujets au 20h. Et puis, on ne peut que constater que plus grande journée de violence le 2 décembre, et Emmanuel Macron va le 10 décembre à la télé leur donner 10 milliards d'euros. Donc beaucoup de gens très sérieux se disent... Après tout, s'il y a de la violence, eh bien ça aidera peut-être aussi à ce que les syndicalistes respectables obtiennent le 5 décembre. Donc c'est vrai que c'est un climat assez terrible.
Allez, dans un instant, on évoque un curieux sujet pour refermer ces informés qui s'est invité, bizarrement, hier dans le débat public pour l'heure 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Soazic Bourg.
La dernière inspection du pont de Mirepoix-sur-Tarn date de l'année dernière. Affirmation du président du conseil départemental de Haute-Garonne qui évoque la piste d'une erreur humaine. Selon le procureur, le camion qui circulait au moment de l'effondrement de l'ouvrage dépassait le poids autorisé de 19 tonnes. Le corps du chauffeur a été retrouvé en début de soirée. Le campus de l'université Bordeaux-Montaigne restera fermé demain. Le blocage des étudiants se poursuit contre la précarité 10 jours après l'immolation par le feu d'un jeune homme de 22 ans à Toulouse. Il prévoit notamment une opération restaurant universitaire gratuit. Un référendum sur les bonnes conditions d'usage d'Airbnb, promesse d'Anne Hidalgo après l'annonce du partenariat entre la plateforme de location et le Comité international olympique. Accord qui couvrira 5 éditions des JO jusqu'en 2028. Partenariat pour lequel la maire de Paris a exprimé des réserves. Les stocks iraniens d'eau lourde dépassent le plafond autorisé par l'accord sur le nucléaire, affirmation de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces réserves peuvent servir à la production de plutonium utilisé dans la confection d'armes atomiques. Téhéran avait annoncé en mai son désengagement progressif du texte. Et puis la déforestation en Amazonie au plus haut depuis 2008. Plus de 9700 km² touchés d'août 2018 à juillet 2019. Une augmentation de près de 30% sur un an.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Le sujet surprise arrive, le zéro alcool au volant de Didier Guillaume est-il réaliste? Le ministre de l'Agriculture, grand défenseur du vin français, en a émis l'idée hier au grand jury de RTL. Il faut raison garder, estime André Léniel, que vous avez reçu, hein, Gilles Bornstein, le vice-président de l'AMF, qui était l'invité de l'Instant Politique sur France Info.
Personnellement, je pense que c'est exagéré, que la législation actuelle est équilibrée. Je ne suis pas pour une société qui serait une société de contraintes permanentes. Donc, sachons raison garder.
Mander Abdennader, qu'est-ce qu'envoie ce message, au fond, de proposer un zéro alcool pour ceux qui prennent le volant?
Alors, je crois que le débat, en général, même si on fait le lien avec les autres sujets, c'est l'assistanat, le côté légiférer systématiquement contre une forme d'émancipation. Et je crois que c'est... Moi, je suis pas du tout, je suis d'accord avec Monsieur Léniel, c'est-à-dire qu'il faut pas légiférer là-dessus. Je pense qu'il faut faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit dans une forme de responsabilisation et d'émancipation plutôt qu'en une forme de contrainte par la loi systématique.
En fait, voilà. Gilles Bornstein, il n'était pas d'accord, Léniel. Hein
non, il n'était pas d'accord. Il en a reparlé après. Il dit effectivement la loi actuelle convient très bien. Yannick et moi, qui sommes des journalistes politiques et voyons toujours le vice partout, je pense qu'il y a aussi une affaire politique derrière ça, parce que Didier Guillaume, il y a quelques semaines, avait dit, en tant que ministre de l'Agriculture, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Or, on sait très bien que d'un point de vue de santé publique, le vin est un alcool exactement comme les autres. Donc pour rattraper un propos malheureux, je trouve qu'il a tenu un autre propos malheureux, je ne sais pas, mais moi je suis plutôt d'accord pour dire que la loi telle qu'elle est convient. Et d'ailleurs, ce n'est pas une sonde, enfin il n'était pas en service commandé. Et j'ai appelé au ministère de la Santé tout à l'heure, où on m'a dit on n'est pas du tout demandeur d'une telle loi. Toute la loi, rien que la loi, et toute la loi qui ne... Mais après, Agnès Buzyn vous dit qu'il ne... moins on boit, mieux c'est. Mais oui, ils estiment que cette loi-là, telle qu'elle est, convient parfaitement. D'ailleurs, elle est assez sévère. Je me suis rendu compte qu'il y avait une différence. Moi, je pensais que c'était 135 € et 6 points.
Et non, c'est pas
si,
ça.
Si, c'est 135 € et 6 points à 0,5. Mais si vous passez à 0,8, qui est 3 verres, c'est 4 500 € d'amende, retrait du permis et éventuellement de la prison.
Vous êtes renseigné, donc, hein, vous n'avez pas testé.
J'ai travaillé. Oui. Non, j'ai travaillé. Donc, le gap entre le deuxième et le troisième verre est très sévèrement réprimé.
Yannick Halimi, c'était très bien. Le président Emmanuel Macron également qui a raconté, expliquer qu'il aimait bien boire.
Il aime bien le vin, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui n'en boit jamais. Il connaît très très bien le vin, il s'en fait une gloire. Bah écoutez, alors moi je suis étonnée par tout ce que j'entends. Je suis contre toute société hygiéniste. Ça c'est clair, net et précis. Et je suis profondément agacée si on m'interdisait de fumer. Pardonnez-moi, il m'arrive de fumer dans les endroits publics. Alors, j'éviterais d'envoyer ma fumée dans les endroits publics. Je veux dire, excusez-moi, les jardins ouverts, hein. Découvert.
Oui,
je parle pas évidemment des gares ou
autre chose. Fermé,
donc
d'accord.
Pardon si je choque, mais ça m'agacerait. Ça m'agace déjà à New York où je me rends de temps en temps. Mais là, pour le coup, zéro alcool, zéro vin, tout ce que vous voudrez au volant, alors là, ça ne me choque pas du tout. Et Dieu sait que je suis plutôt pour la liberté individuelle, l'émancipation, la responsabilisation individuelle. Mais là, quand on voit le nombre de morts sur les routes, dont beaucoup sont dus soit au l'usage de drogue, enfin, soit à l'usage d'alcool au sens large oui. du terme, mais tout de même d'alcool dont le vin. Moi, ça ne me choque pas du tout que le conducteur, bien sûr, le conducteur, zéro.
Tour de table.
Zéro.
Est-ce qu'il ne faut pas plutôt sévériser davantage ceux qui sont, pardonnez-moi l'expression, vraiment bourrés au volant? Plutôt que
non.
Parce que je crois que ce qui est vraiment.
Bah, l'un n'empêche pas l'autre.
D'abord, il n'y a pas que le journaliste politique de France Info ou du Parisien qui voit de la politique partout, le politiste de Sciences Po aussi. et moi aussi, j'interprète d'abord. Parce que comme le ministre de l'Agriculture a déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs prises de position, on va dire un peu traditionnelles, hein, sur tous ces sujets, moi aussi, j'ai vu ça comme un coup de barre. Alors, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais en tout cas, comme contrebalancé. Mais sur le fond. Sur le fond, je pense qu'il y a quand même encore des progrès à faire sur l'éducation citoyenne au volant, globalement.
C'est ce que disait on voit bien responsabiliser, au fond.
C'est responsabiliser, mais aussi, je dirais, avec au-delà de responsabiliser, c'est aussi éduquer et continuer à éduquer. On voit quand même qu'il y a beaucoup de comportements pas tellement civiques au volant, chez tout un chacun, je peux me mettre dedans aussi, chez tout un chacun, et qu'il y a beaucoup à faire sur... l'éducation depuis peut-être l'école au fond à tout ça, au fait de respecter l'autre, de pas se mettre en danger, de pas mettre les autres en danger, c'est effectivement le cas, mais je trouve qu'en France on pourrait continuer à faire des progrès sur cette question.
Allez, pas forcément interdire, mais en tous les cas responsabiliser comme vous le disiez à l'instant. Yannick Halimi, la une du Parisien aujourd'hui en France.
C'est sur le grand procès qui va s'ouvrir près de La Rochelle sur ce médecin pédophile.
Ah oui, c'est sidérant cette histoire.
C'est sidérant.
Merci.
Vous en saurez plus demain en lisant le Parisien.
Allez. À lire dans le Parisien, la une du Parisien aujourd'hui en France.
Aujourd'hui en France.
Merci Yannick Halimi, Gilles Bornstein, Monder Abdennader et Bruno Cotterêts d'avoir participé à ces informés. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonsoir.